Bonjour à tous et à toutes, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 20 août 2015, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, léger séisme à Lubumbashi.
En République centrafricaine, trois casques bleus mis en cause dans trois nouveaux cas de viol.
En Égypte, au moins six policiers blessés au Caire par l'explosion d'une voiture piégée.
Washington propose au Conseil de sécurité l'imposition d'un embargo sur les armes au Soudan du Sud.
La Thaïlande va demander l'aide d'Interpol pour retrouver le principal suspect de l'attentat de Bangkok.
Les États-Unis ont réaffirmé hier leur confiance dans l'Agence internationale de l'énergie atomique après la divulgation d'informations selon lesquelles l'agence pourrait laisser l'Iran mener ses propres inspections. Voilà pour quelques-uns des titres que nous allons développer. Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Un léger séisme a été ressenti dans la nuit de mercredi à jeudi à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, sans toutefois provoquer de panique, a constaté un journaliste de l'AFP. La secousse s'est produite aux alentours de minuit, heure locale, et a duré environ 40 secondes dans la capitale de la province minière du Katanga, située dans le sud-est de la RDC. Les tremblements de terre sont rares au Katanga.
RDC toujours, incident sécuritaire aux environs de Moutaroulé. Hier, deux bergers de la tribu de Barundi ont été tués et un autre blessé grièvement par balle lors d'une attaque de bandits armés à Tengetenge. Les précisions de notre correspondant au sud Kivu, Ernest Mouero.
Deux bergers appartenant à la communauté des Barundi de la plaine de la Ruzizi viennent d'être assassinés ce mercredi par un groupe de bandits armés dans la plaine de la Ruzizi, selon plusieurs sources concordantes. L'attaque a eu lieu vers 15h à Tengetenge, un site de pâturage de vaches situé entre la localité de Lubérizi et Moutaroulé en territoire d'Ouvira. Un troisième berger a été blessé grièvement par balle pendant ses échauffourées. Les mêmes sources ajoutent que trois vaches auraient été abattues par ces bandits. En cette période, le pâturage se fait rare dans la région et les éleveurs sont obligés d'aller plus loin que d'habitude. Les deux victimes de cet incident sont tous âgés d'une vingtaine d'années. L'un était célibataire, l'autre marié et père de des enfants, selon des sources policières. L'administrateur du territoire d'Ouvira que nous avons contacté et le commandant de la police dans la plaine de la Ruzizi confirme l'attaque des Tengetenge sans avancer des bilans en attendant plus d'informations à ce sujet. Toutefois, d'aucuns s'interrogent si ces cas de banditisme aux environs de Moutaroulé n'est pas susceptible de traumatiser davantage les retournés de Moutaroulé qui ont moins d'une semaine de retour dans leur village natal. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Trois casques bleus ont été mis en cause dans trois nouveaux cas de viol en Centrafrique, rapporté hier une porte-parole de l'ONU, une semaine après le renvoi du chef de la mission onusienne dans ce pays pour des faits similaires. Les précisions de Tatiana Mosso.
Ces nouvelles allégations font état du viol de trois jeunes femmes par trois membres d'un contingent militaire de la MINUSCA, a déclaré une porte-parole de l'ONU. Les viols auraient eu lieu il y a quelques semaines et ont été signalés par les familles des victimes à la MINUSCA le 12 août. Ces accusations s'accumulent en Centrafrique. Il y a quelques mois, des rapports successifs avaient accusé des soldats de la MINUSCA d'abuser d'enfants des rues à Bangui. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait qualifié les cas d'agression sexuelle de cancer dans notre système, prenant une décision sans précédent qui a abouti à la démission forcée de Babacar Gaye. Forte de 12 000 casques bleus, la MINUSCA fait face à 57 allégations de faute, dont 11 concernent des cas potentiels d'abus sexuels sur des enfants. L'ONU a nommé une commission indépendante pour enquêter sur leur gestion, après des critiques pointant la lenteur de sa réaction sur le dossier. Côté centrafricain, sur le plan pénal, le parquet n'a aucun pouvoir. Les casques bleus jouissent d'une immunité. Seuls les pays d'origine des soldats de la paix peuvent engager ou non des poursuites contre eux. Sur le plan civil, en revanche, si le parquet estime que les dégâts matériels sont conséquents, il peut attaquer en justice la MINUSCA. Le ministre de la Justice centrafricain attend les résultats de l'enquête préliminaire.
Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, demande à son tour la levée de la zone de sécurité autour de Kidal. Les ex-rebelles disent avoir les moyens nécessaires pour sécuriser les populations de Kidal. De Bamako, correspondance de Kassim Traoré.
C'est dans un communiqué que la SEMA fait sa première déclaration après les affrontements d'Anéfis. Pour elle, ce sont les milices pro-gouvernementales qui tentent de reconquérir de nouvelles positions tenues depuis le cessez-le-feu du 23 mai 2014 par elle. La SEMA parle de violations flagrantes des arrangements sécuritaires et des termes de l'accord de paix signé le 15 mai et le 20 juin 2015. La coordination des mouvements de l'Azawad dit avoir pris note de l'instauration d'une zone de sécurité de 20 km autour de la ville de Kidal. Elle a également pris note du communiqué du gouvernement malien à la date du 18 août, regrettant l'instauration d'une telle zone de sécurité. Par conséquent, la coordination des mouvements de l'Azawad demande à l'aménagement de lever expressement et dans les meilleurs délais toute zone de sécurité établie tout autour de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un dignitaire musulman mauritanien a appelé mercredi tous les pays à consacrer une part importante de leur budget à la lutte contre l'extrémisme à travers des programmes culturels. Cet appel a été lancé par Abdelahi Ould Boye à l'ouverture à Nouakchott d'un colloque international de 2 jours sur l'extrémisme violent. Le financement devrait aller à des programmes culturels dédiés à la protection des jeunes et des femmes contre la tentation extrémiste, a-t-il précisé.
En Égypte, au moins 6 policiers ont été blessés au Caire dans la nuit de mercredi à jeudi par l'explosion d'une voiture piégée visant leur commissariat, et ce alors que l'Égypte est en proie à une vague d'attentats de djihadistes du groupe État islamique. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.
Les États-Unis proposent au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud après le refus du président Salva Kiir de signer l'accord d'Addis Abeba sur la fin du conflit qui déchire son pays depuis 20 mois. Ils ont fait circuler hier un projet de résolution sur lequel un vote est attendu très bientôt. M. Kiir avait pourtant auparavant promis dans une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État John Kerry qu'il signerait après quelques jours supplémentaires de consultation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités thaïlandaises ont indiqué jeudi qu'elles allaient demander l'aide d'Interpol pour retrouver le principal suspect de l'attentat de Bangkok, repéré sur des caméras de vidéosurveillance. Des détails avec Henri Francisque.
Le recours à Interpol a été annoncé à l'AFP par le major général Apichaud Suribonia, chef de l'unité d'Interpol en Thaïlande. Mais il a dit ne pas savoir si le suspect avait déjà fui le pays. Mercredi en fin de journée, un mandat d'arrêt a été émis contre cet homme, un étranger, soupçonné d'avoir déposé la bombe devant le sanctuaire d'Erawan, en plein centre de Bangkok, qui a fait une 20aine de morts et plus de 120 blessés lundi soir. 2 jours après l'attaque, qui n'a pas été revendiquée, la police n'a toujours pas réussi à identifier l'homme. Nous avons reçu beaucoup d'informations du public depuis la diffusion du portrait robot du suspect. Et nous étudions ces pistes, a déclaré le porte-parole de la police. D'après le mandat d'arrêt, cet étranger non identifié, grand, à la peau claire, portant des lunettes à monture noire, est soupçonné d'assassinat et d'avoir participé à la fabrication d'une bombe. La police a indiqué qu'il faisait partie d'un réseau et 2 autres hommes filmés par les caméras de vidéosurveillance avant l'explosion sont soupçonnés de l'avoir aidé. Le principal suspect a été entendu parlant une langue étrangère mais pas l'anglais. Pour le décrire, le porte-parole de la police a utilisé mercredi soir un terme thaïlandais désignant généralement des musulmans au teint clair originaires d'Asie du Sud, d'Asie centrale ou du Moyen-Orient.
Les États-Unis ont réaffirmé hier leur confiance dans l'Agence internationale de l'énergie atomique pour enquêter sur l'éventuelle dimension militaire d'un ancien programme iranien après la divulgation d'informations selon lesquelles l'agence pourrait laisser l'Iran mener ses propres inspections. L'agence AP dit avoir vu ce qu'elle appelle un accord secret entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, un accord entériné par les négociateurs du P5+1 qui ont conclu avec leurs homologues iraniens le récent accord sur le nucléaire iranien.
En Syrie, le groupe État islamique a décapité le directeur du service des antiquités de Palmyre. Information confirmée par le directeur général des antiquités de Syrie ainsi que par une ONG, Claire Morin-Gibourg.
À 82 ans, Khaled al-Assad se savait menacé par le groupe État islamique. Celui qui fut le chef des antiquités de Palmyre de 1963 à 2003 a été exécuté par les djihadistes mardi après-midi dans la célèbre ville antique de la province centrale de Homs, ville qu'il chérissait et qu'il avait refusé de quitter. Mahmoud Abdelkarim, directeur général du département des antiquités et des musées de Syrie, a confirmé son exécution à l'AFP, se désolant de la perte de l'un des plus éminents experts du monde antique. Des sites djihadistes ont justifié son assassinat, affirmant que M. Assad avait été le directeur des idoles à Palmyre. La version rigoriste de l'islam sunnite, prônée par le groupe État islamique, considère les statues humaines ou animales comme de l'idolâtrie. Palmyre est tombée fin mai aux mains des djihadistes. Cette cité, qui fut l'un des plus importants foyers culturels de l'Antiquité, abrite des ruines ancestrales classées par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Depuis, la communauté internationale craint que le groupe État islamique ne détruise ses nombreux trésors archéologiques, à l'instar de ce que le groupe extrémiste sunnite a fait en Irak.
Et maintenant, la Minute Éco avec Eddie Isango.
Une nouvelle variété d'anacarde est bientôt introduite en Côte d'Ivoire. Les producteurs pourraient atteindre une tonne à l'hectare avec ces nouvelles variétés d'anacardiers qui sont en train d'être mises en place par des scientifiques en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé la directrice technique anacarde au Conseil du coton et de l'anacarde CCA, Dr Mariam Ouattara, citée par l'AFP. La société Sugden, qui poursuivait en justice à Londres l'exportateur ivoirien African Sourcing et les régulateurs ivoiriens, les conseils du café cacao CCC, pour mauvaise qualité des cacaos livrés par Africa Sourcing, a été débouté par la justice anglaise selon APA. Le Sénégal a autorisé la campagne de forage des Kern Energy dans un communiqué publié le 18 août et cité par Jeune Afrique. Kern Energy indique avoir obtenu les feux verts des autorités sénégalaises pour son programme d'exploration et de développement d'hydrocarbures. Les groupes britanniques prévoient des forêts jusqu'à 6 nouveaux puits au large des côtes sénégalaises. Au Zimbabwe, le Parlement a approuvé mardi soir la proposition des lois du gouvernement d'interdire des licenciements massifs. C'est là pour contrecarrer la décision de la Cour suprême autorisant les employeurs à renvoyer des salariés avec seulement un préavis de 3 mois. Les syndicats estiment qu'au moins 18 000 emplois ont été supprimés depuis cette décision.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En basketball, début hier en Tunisie de l'Afrobasket 2015.
Oui, l'Égypte a écrasé dans le groupe C le Gabon par 96 à 49 en match d'ouverture de cette édition. Dans le groupe A, les Fauves du Bazou Bangui se sont inclinés 68 à 83 face aux Super Eagles du Nigeria. La RCA, il faut le dire, a joué sans son meneur de jeu, Romain Sato, qui joue dans le championnat espagnol. Le Mali a lui perdu face au Cameroun dans le groupe C, 56 à 70.
En football, suite et fin de la phase de groupe ce soir de la Ligue des Champions en Europe.
En Espagne, sur ses propres installations, Valence a battu Monaco 3 buts à 1. Les Albanais de Skanderbeu ont perdu 1-2 face au Dynamo Zagreb. Victoire du Celtic Glasgow 3 buts à 2 contre les Suédois de Malmö. 2 buts partout entre les Suisses de Bâle et le Maccabi Tel Aviv. Le Rapide de Vienne est lui tombé 1-0 face au Shakhtar Donetsk. Ces matchs de barrage dont les retours auront lieu les 25 et 26 août constituent le dernier obstacle avant les poules. Les clubs éliminés en barrage sont reversés en phase de groupe d'Europa League.
Cannes 2017, le sélectionneur du Nigeria a publié une liste de 18 joueurs expatriés.
Sandé Olise, le nouveau sélectionneur des Super Eagles du Nigeria qui a succédé à Stephen Keshi en juillet dernier, a dévoilé une liste de 18 joueurs expatriés pour les éliminatoires de la Cannes 2017. Le milieu de terrain John Obi Mikel et l'attaquant Victor Moses n'ont pas été retenus. pour affronter la Tanzanie à Dar es Salaam le 5 septembre.
Football toujours, le franco-congolais Cédric Bakambu va jouer en Espagne.
Oui, l'attaquant qui évoluait depuis un an à Bursaspor en Turquie a été transféré à Villarreal où il évoluera les 5 prochaines années. Âgé de 24 ans, Bakambu vient renforcer l'attaque du sous-marin jaune. La presse espagnole évoque une indemnité de transfert autour de 7 millions d'euros.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, c'est aujourd'hui que doit prendre fin la grève de 72 heures dans le différend entre la direction de l'hôpital Gabriel Touré et le comité syndical de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme de Bamako. Notre correspondant Kassim Traoré.
Le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré est l'hôpital le plus fréquenté au Mali grâce à sa proximité avec la population. La grève qui a débuté le 18 août a amené des mécontents. Nous sommes venus le premier jour. Il y avait la grève, on a été obligé de retourner à la maison. Aujourd'hui, il y a aussi des problèmes car nous n'avons personne qui s'occupe de notre patiente. Les grévistes nous ont dit de retourner avec nos malades. Les syndicalistes ont certes des revendications d'ordre matériel, d'amélioration des conditions de leur vie. Mais un tour dans l'hôpital nous a permis de voir d'autres réalités. Jimmy Kanté, membre du syndicat de l'hôpital Gabriel Touré.
Nous avons des revendications qui auraient dû être portées par la société civile malienne et non par un syndic. Gabriel Touré est le seul hôpital à ma connaissance au Mali où au chevet du malade, vous allez voir des cafards, vous allez voir des insectes de tout genre dans la salle d'hospitalisation au chevet du malade. Faites le tour, c'est dans la cour de l'hôpital Gabriel Touré que vous allez voir des eaux usées qui quittent des toilettes pour être déversées directement dans la cour. À Gabriel Touré aujourd'hui, vous venez pour avoir des soins, mais vous retournez avec des maladies beaucoup plus compliquées que ce qui vous a amené.
Si la direction de l'hôpital Gabriel Touré conçoit que la grève est un droit pour les uns, elle n'en est pas moins consciente que la liberté de travailler en est pour d'autres. Professeur Kassoum Sanogo, directeur général de l'hôpital Gabriel Touré.
Les malades sont arrivés à l'entrée et se sont butés au piquet de grève. Ils ne voulaient pas les laisser passer. Ce qui a motivé le recours qu'on a fait au commissariat du premier arrondissement qui nous a envoyé un renfort pour libérer les actes de l'hôpital. Tu peux dire que les effets pervers de cette grève ont été très limités.
Le syndicat dit avoir mis en place un piquet de grève à l'entrée de l'hôpital et non d'empêcher son accès aux patients. Jimmy Kanté, membre du syndicat de l'hôpital Gabriel Touré.
Nous sommes à la porte et nous sommes avec des dépliants contenant des informations sur la grève. Nous n'avons jamais, et j'insiste là-dessus, empêché un quelconque malade d'accéder à l'hôpital.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, SOS du ministre de la Santé publique, les hôpitaux ont du mal à fournir du sang à tous leurs patients. De Yaoundé, reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Selon le ministre camerounais de la Santé publique André Mamafouda, la situation est critique. Le pays a produit 49 000 poches de sang, loin des 400 000 nécessaires cette année.
Le focus principal est la validation du projet de plan stratégique qui est la reconnaissance du donneur bénévole et régulier par une carte d'identification. La réussite de ce programme est d'avoir une organisation par région où tout le sang collecté est traité dans un endroit disponible. D'équipements adaptés.
Le ravitaillement des banques de sang n'est plus chose évidente, compte tenu des hépatites et du VIH-Sida qui rendent l'activité du don de sang difficile. Pour pallier les problèmes, le gouvernement a pris une batterie de mesures, parmi laquelle la création du programme national de transfusion sanguine. Le docteur Apolline Nwandongo en est le secrétaire permanent.
Nous avons eu des activités, la formation des recruteurs en donneurs de sang. Ces recruteurs en donneurs de sang sont là pour nous aider à sensibiliser la la société civile et population sur la problématique du don de sang.
La sensibilisation semble déjà porter des fruits. Certains jeunes Camerounais se mobilisent comme ici au palais des sports de Yaoundé pour donner leur sang pour les militaires blessés sur le front de la lutte contre les groupes terroristes Boko Haram. Pour Perrin Kouenke donateur, c'est un acte patriotique en faveur de 3000 soldats camerounais au fond.
C'est la première fois que je vois mon sang couler dans un cadre de don de sang et je me dis que je suis en train d'accomplir un devoir citoyen. J'invite tous les jeunes à soutenir l'effort de guerre d'un moyen ou d'un autre. Aujourd'hui, nous soutenons par le don de sang.
Les malades chroniques payent aussi les frais de ces manques de sang, comme le souligne Thierry Ndong, drépanocytaire.
Les personnes qui vivent avec la drépanocytose ont souvent besoin d'être transfusées pour rester en vie. Mais malheureusement, il arrive que les donneurs de sang soient en manque. Dans ces cas, les familles ont recours à des donneurs familiaux. Et ils sont parfois obligés d'utiliser ce sang sans analyse, ce qui expose les personnes qui doivent recevoir le sang, comme nous les drépanocytaires, à toutes sortes de complications.
Malgré tout, les autorités camerounaises restent optimistes. Une forte thérapie sera administrée aux hôpitaux. C'est ce qui justifie le Comité national de transfusion sanguine en gestation, MOKI. Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Malgré l'appel de l'Union africaine, de l'ONU et d'autres puissances occidentales à l'arrêt de la violence, la situation au Burundi continue à se détériorer sur le terrain. L'assassinat samedi dernier du colonel à la retraite Jean Bikomagu, ancien chef d'état-major de l'armée, est perçu comme un acte de vengeance suite à l'assassinat du général Adolphe Chimiramana, ex-chef des services secrets. VOA Afrique a joint à Bujumbura le directeur général de la radio-télévision Renaissance, Innocent Mouzi.
Certains y voient un acte de vengeance plutôt difficile à comprendre puisque le colonel Bikomagu, jusqu'à preuve du contraire, n'est absolument pas impliqué dans la mort du général Adolphe. Et si c'est vraiment le cas, ce serait triste parce que ces deux hommes-là s'étaient réconciliés de manière spectaculaire depuis longtemps. Ils avaient échangé des haches en signe de réconciliation, alors qu'hier, c'était justement les deux chefs des deux armées qui s'affrontaient. Donc dans la plupart des esprits ici, c'était un acte de vengeance, d'autant plus que quand on voit ce qui circule sur les réseaux sociaux, que des prétendus partisans justement du général Chimiramana Adolphe affichent comme les hommes à abattre, et c'est tout une liste d'officiers supérieurs de l'ancienne armée nationale, mais c'est également d'autres civils où les gens sont carrément mis sur des listes de personnes à assassiner ou à qu'il faut faire le maximum de mal possible.
Mais une vengeance contre un homme qui n'était plus mêlé à quoi que ce soit.
Tout ça sans une volonté d'éterniser encore une fois le problème. Parce que quand vous voyez les choses qui circulent une fois de plus sur les réseaux sociaux, c'est un éternisme d'une extrémité incroyable. On retrouve le même type d'affirmation, de slogan, des noms qu'on retrouvait dans le parti CDR à propos du Rwandais Tutsi en 1994 au Rwanda. On retrouve les mêmes haines sans limite dans ces réseaux sociaux. C'est quand même incroyable de voir que ces choses reviennent. Donc quelque part, ce n'est plus tellement de savoir si quelqu'un est impliqué dans quoi que ce soit. C'est plus une question de chercher peut-être à tuer des gens pour ce qu'ils sont et au symbole que ce qu'ils pourraient représenter plutôt que d'être dans une guerre quelconque. C'est une histoire de lâche classique où on s'en prend à ceux qui ne peuvent pas se défendre.
La communauté internationale continue à demander l'arrêt des violences. La violence ne s'arrête pas.
Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment concrètement faire pour arrêter cette escalade-là? Puisque maintenant on est dans une situation pratiquement de guerre, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait plus que ce qu'il y a déjà eu comme morts, comme prisonniers, comme torturés, pour qu'il y ait quelque part des actions plus concrètes que ça? Je ne sais pas. J'ai comme l'impression que les gens se comportent comme s'ils ne savaient plus quoi faire.
C'était le directeur de la radio-télévision Renaissance, notre confrère Innocent Mouzi, joint à Bujumbura par Eric Manirakiza. Hier, 19 août, cela faisait 9 ans, jour pour jour, que le bateau Le Probo Koala déversait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus de 500 tonnes de déchets toxiques. 9 ans après, comment vit-on près des sites de déversement de ces déchets? La réponse d'Assi Adou Nicodème, président des Fédérations des associations des victimes des déchets toxiques.
9 ans après, c'est toujours la désolation parce que les déchets ont été infiltrés dans le sous-sol et lorsqu'il pleut, l'odeur qui remonte contamine toujours la population. Et ce n'est pas à cause d'eau seulement, c'est 18 sites à ciel ouvert dans le district d'Abidjan. La population d'Abidjan est exposée à ces déchets nuit et jour.
Il y a eu un changement de gouvernement, hein. Laurent Gbagbo n'est plus là, il y a Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé alors? Est-ce que le nouveau gouvernement a fait quelque chose?
Oui, je peux dire que le nouveau gouvernement a fait quelque chose. Ce gouvernement doit aller jusqu'au bout de ses actions et c'est ce que nous attendons. Il y a des sites qui n'ont pas été décontaminés. Ce même gouvernement Alassane, au cours d'un conseil des ministres, a dit que tous les dossiers de déchets toxiques seront traités. Et nous lui faisons confiance pour que ces dossiers soient traités. On a quelque part des élections. Nous demandons au gouvernement Ouattara de nous aider pour que les 80 000 victimes de la base de données nationale soient indemnisées.
Les populations qui vivent autour de ces sites, hein, pendant longtemps ont été inquiètes. Hein, je pense notamment à ceux qui sont à Djibi, au village de Djibi. Comment est la vie en ce moment dans ces sites proches des lieux de déchets toxiques?
Au niveau de la médecine, allez-y un peu dans les centres de santé. Vous allez faire des statistiques dans les trois CHUV. Il y a des problèmes récurrents qui ont augmenté, c'est-à-dire des cas de fausse couche, des cas de malformation, des nouveau-nés. Et nous qui sommes victimes de déchets toxiques, et nous qui sommes plutôt une association de déchets toxiques qui gérons au quotidien les victimes, lorsque les parents rencontrent ces cas comme ça, nous avons confié ce dossier à notre médecin. Il a révélé que c'est des cas de déchets toxiques. Malheureusement, ces victimes ne sont pas du tout assistées et c'est le drame ici en Côte d'Ivoire.
Assi Adou Nicodème, président des fédérations des associations des victimes des déchets toxiques, joint à Abidjan par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Les ONG ont tiré hier la sonnette d'alarme sur la crise humanitaire qui s'aggrave au Yémen. Claire Morin-Gibourg a joint le représentant de l'UNICEF au Yémen, Julien Arnès.
Les conflits durent depuis 5 mois. Pendant cette période, il y a à peu près 1000 enfants qui sont soit morts ou blessés. Ceci fait à peu près 8 enfants par jour. En même temps, nous estimons qu'il y a à peu près 500 000 enfants qui sont malnutris aigus sévères.
Quelles sont vos principales difficultés, vous, en tant qu'ONG, pour venir en aide à ces enfants?
Nous arrivons à accéder à la majorité du pays. Le plus grand défi, c'est que nous n'avons pas les capacités pour répondre aux besoins de la population. Le Yémen, c'est un pays de 25 millions de personnes qui importe 90% de ses besoins. Et actuellement, avec le bombardement des ports, des restrictions sur la possibilité d'importer au pays, et avec 20 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance, nous, les humanitaires, on n'est pas capable de répondre à un tel volume de besoins. On a besoin que l'importation commerciale normale puisse fonctionner et que les parties au conflit, quand ils mènent leur combat, respectent la vie humaine. Un exemple, mardi, des gens avec lesquels nous travaillons dans le ministère de l'Éducation dans une ville d'Amran, en préparant des examens, ils se sont fait bombarder. Il y a 17 personnes décédées, dont 4 enfants et 20 blessés. Ils étaient là, dans un bâtiment d'éducation, préparant des examens, pas dans un lieu militaire, loin de ça, bombardement aérien, sans explication. Ce n'est pas acceptable.
Est-ce que vous rejoignez dans ce cas-là Amnesty International qui demande une enquête sur des possibles crimes de guerre?
Notre mandat est d'apporter du soutien à la population et d'œuvrer à empêcher que la population civile en souffre. Et certainement, on se rejoint à tous qui demandent qu'il y ait un respect de la vie, un respect des civils et que les combats, que ce soit bombardement aérien ou les combats dans la rue, ne touchent pas la population civile.
Julien Arnès, représentant de l'UNICEF au Yémen. Doudou Ndiaye Rose. Le Sénégal a perdu mercredi un de ses plus grands ambassadeurs culturels à travers le monde, son maître tambour Doudou Ndiaye Rose, décédé à 85 ans et qui était classé par l'UNESCO trésor humain vivant. Monument, légende, percussionniste hors pair, magicien des tambours, À l'annonce de son décès, plusieurs télévisions locales ont bouleversé hier après-midi leur programme pour lui consacrer des hommages, diffusant des images de récentes manifestations pour son 85e anniversaire. Doudou Ndiaye Rose venait d'une famille de griots et était à la tête d'un orchestre de plusieurs dizaines de percussionnistes, dont plusieurs membres de sa famille. Doudou Ndiaye Rose, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui. À Washington.